Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les déviations racontent l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de l'actualité de notre média, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Écrivez-nous, parlez des déviations autour de vous et dites-nous que vous nous aimez. Les déviations est un média indépendant et nous avons besoin de votre soutien. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
Tu parles à quelqu'un qui a cramé 8 boîtes, qui a peur de l'échec. Mais t'es ouf ou quoi ? L'échec, c'est là où t'apprends le plus. Il n'y a que les débiles qui ont peur de l'échec. L'échec, ça fait partie de la réussite. Si tu ne sais pas perdre, tu gagneras jamais.
Il a monté, dirigé, relancé quelques dizaines de boîtes. Il en a coulé certaines aussi. À Paris, tous dans le milieu de la mode, de la beauté, des affaires, connaissent son nom, à défaut de l'avoir rencontré. C'est normal, il est toujours parti. Ramdan Touami est un drôle d'oiseau. Un fils d'ouvrier agricole, devenu avec sa femme, Victoire de Taillac, un chef d'entreprise au succès remarquable. Leur dernier coup de maître, c'est Bully. Des officines de beauté inspirées par un apothicaire du 19e qui éclosent dans le monde entier. Rencontre avec Ramdan Touami, un provocateur obsédé par l'art de vivre, un hyperactif passionné d'histoire, un punk chez les bourgeois. Bonjour Ramdan, je suis très contente qu'on discute aujourd'hui et qu'on fasse ce podcast ensemble. On se connaît un peu, toi et moi, mais pas suffisamment pour s'être raconté nos vies. Pourtant, ton histoire, je la connais, parce qu'elle est partout sur Internet.
C'est pour mieux vendre mes savons. Voilà, mais il n'y en a que des petites parties. C'est très rare qu'on me pose la question, on revienne sur, par exemple, on m'appelle le serial entrepreneur. What the fuck is that? Tu vois, je comprends pas, tu vois, serial entrepreneur. Il suffit que tu fasses deux trucs différents dans ta vie pour que tu deviennes un serial entrepreneur.
Ouais. C'est effectivement toute cette histoire, ce storytelling autour de ton ascension sociale, ton histoire de fils d'ouvrier agricole, qui est maintenant à la tête de pas mal de boutiques, Bully, et qui a fait plein de choses. Effectivement, on voit serial entrepreneur, on te dit inclassable, c'est des mots qui reviennent assez souvent. L'émission sur France Culture, on parle de transfuge de classe.
Le transfuge de classe est plus proche de la réalité. Mais c'est vrai que c'est parce que les gens n'ont pas le temps, on aime bien les raccourcis. Mais je suis inclassable. Mais j'en connais pas beaucoup, des gens qui veulent rester dans une classe toute leur vie. Qui veut être classé dans une case ? Il y a un artiste qui s'appelle Space Invader, qui fait du carrelage, des petits bonhommes en carrelage, des sortes de Space Invader dans toutes les rues. Depuis, je le connais, je l'ai rencontré il y a 25 ans, il fait toujours la même chose. Je connais sa vie, tous les jours, la même chose. Le mec qui colle les affiches John Hammond, colle tous les jours des affiches, la même chose. Je sais pas, peut-être que ces gens ont dû vraiment beaucoup s'éclater dans leur jeunesse pour avoir ce luxe de pouvoir rentrer dans une routine aussi parfaite, mais je sais pas, ça me paraît bizarre tout ça.
Est-ce que tu pourrais du coup, toi, te présenter ? Qui es-tu ?
C'est difficile en quelques secondes de se présenter, je sais pas, je dois m'y ramener, ouais, j'habite dans le 7e, rue du Bac, j'ai 3 enfants, une femme, pépère quoi. Un peu voyageur, un peu beaucoup. J'ai une maladie grave qui est la phobie de l'ennui, donc hyper actif. Je suis même allé voir l'autre jour ce spécialiste du cerveau qui s'appelle Idriss Aberkane. Je suis allé jusqu'à Neuchâtel le voir pour parler avec lui. Je lui ai dit, j'ai un problème de mémoire. Je ne me rappelle pas de beaucoup de choses importantes. Enfin, j'ai beaucoup de trucs, mais il me dit, tu mets combien de temps à prendre une décision ou créer un truc? Je fais quelques secondes. Il me dit, voilà, là, le problème dans ton cerveau va vite. Donc toi, tu n'es pas fait pour des trucs longs. des trucs courts. Tu prends beaucoup de décisions par jour, je fais des centaines. Je dis voilà, c'est comme ça, ton cerveau il est comme ça. Donc, une décision que tu prends très vite, tu l'oublies très vite. Voilà. J'ai ce genre de cerveau.
Donc les déviations, c'est un média qui raconte les histoires de gens qui ont changé de vie, avec un peu tout le flou qui est derrière ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire changer de vie ? Est-ce que toi, tu t'inclus dans ce type de définition ?
Alors, j'ai pas changé moi-même, j'ai pas changé de vie, parce que j'ai toujours vécu de la même façon, mais alors exactement la même façon, mais dans plein de mondes différents. Voilà, c'est un peu ça. Moi, par contre, j'ai changé de monde des dizaines de fois, des centaines de fois. Mais je suis le même. Je ne vais pas dire que j'ai changé de vie. Je ne suis pas devenu hippie du jour au lendemain. Mais je suis végétarien. J'ai mangé de la viande avant. Je peux la jouer. Mais ça, ce n'est pas changer sa vie. C'est changer sa façon de manger. Quand je vois des gens qui passent d'une vie d'excès après une vie austère, c'est juste que je pense qu'ils ont abusé de l'excès. Il y a plus de place dans leur tête et qu'ils sont passés à autre chose. Donc là, ils ont vu ce que c'était. Mais c'est les mêmes personnes, ils sont toujours aussi gentils ou aussi méchantes. Je n'ai jamais vu quelqu'un vraiment se métamorphoser. Oui, alors, c'est le regard des autres sur eux qui a changé. Donc là, pour eux, c'est changer de vie, mais moi, je ne change pas de vie. Non. Moi, je suis Ramdan Touami, allez vous faire foutre, je ne bougerai pas. Hein. Punk jusqu'au bout, à la carré, rien à perdre. Mais par contre, je suis Ramdan Touami, clochard dans le métro à Paris et Ramdan Touami dans un hôtel particulier du 7e arrondissement. Voilà, c'est le même.
Dans ton parcours, effectivement, il y a d'abord le Ramdan Touami qui est fils d'ouvrier agricole à Montauban, c'est ça ?
Bah, j'ai grandi à la campagne, entre Toulouse et Montauban, dans un petit village qui s'appelle Bressol, famille de 6, un frère qui est mort, accident de moto il y a 2-3 ans, mais 4 ans. Au lycée, en m'ennuyant, j'ai créé le t-shirt Tushiland, qui a été un gros succès. Et après, je suis monté à Paris. Après, j'ai eu des hauts et des bas. Mais après, j'ai fait une marque de skateboard qui s'appelait King Size, qui a été un très gros succès. Et ensuite, on a ouvert le premier concept store parisien, à peu près au même moment que Colette, mais qui était inversé. Voilà. Avec Marc Jacob, j'ai fait ça, toute cette bande-là. Et ça, c'était très marrant, de 97 à 2000. On a craché l'affaire en 2000 parce que je ne me suis pas entendu avec les deux autres. Et après, je suis parti vivre au Japon. J'ai créé un day, une chaîne de boutiques. Et en revenant, je suis sorti avec Victoire juste avant de partir au Japon. Après, je suis revenu pour elle un an après. Et après, j'ai monté. J'étais directeur artistique de Liberty à Londres. J'ai fait des restos à Tanger partout dans le monde. J'ai relancé Trudon, ma marque Résistance, une marque de Freedom Fighters, qui était une marque qui cartonnait aussi. On défilait à Paris pendant des années. J'ai une passion pour le retail. J'ai dessiné des boutiques, je crois que j'ai fait, dans ma vie, 189 boutiques pour les gens. Voilà. Ça, c'est un truc à côté que je fais, mais qui est toujours ma passion. Et voilà, depuis un moment, je fais Bully. Et après avoir m'être séparé de mon associé et vendu mes parts sur Cyr Trudon, là, je développe Bully, qui est, comme on l'a toujours dit, un succès. C'est un projet qu'on a eu comme idée en 2003. Hein. C'est pas un nouveau projet. Qu'on a ressorti des vieux derrière les fagots et voilà, et qui maintenant marche très bien. LVMH a acheté 12% de la boîte et voilà. Ils n'auront pas plus.
T'as combien de boutiques là qui vendent du savon ?
32. San Francisco, New York, Londres, Paris. Il y a Rome là qui va ouvrir. Et après, t'as 8 à Séoul, 6 ou 7 au Japon, je sais plus, Hong Kong, Taipei, il y en a 2. Il y en a 9 en Australie aussi. En fait, c'est mieux de ne pas compter.
Ça t'amuse encore, le développement de Bully et...
Non. Ça va. Non. À partir du moment où tu ne te rappelles plus du prénom d'un vendeur, c'est vraiment marrant. Je ne sais pas comment ils font, les autres, mais moi, j'ai besoin d'humaniser les choses. Alors, je ne sais pas comment ils font, les mecs qui ont fait des écoles de commerce, mais moi, on ne m'a pas appris à gérer 250 personnes. Je n'ai pas la patience, ça me casse la tête. Déjà, 5 ans dans un projet chez moi, c'est beaucoup. 5 ans à faire la même chose. La vie est trop courte pour rester 5 ans à faire tous les jours la même chose. Tu vois, j'aime bien rentrer dans un truc, changer l'économie du truc dans lequel je suis rentré. Comme j'ai changé le business des bougies, il n'y avait pas de cloche avant, il n'y avait pas de cire végétale, il n'y avait pas d'endroit d'espace quand j'ai fait Cyr Trudon, les bougies par exemple. Donc j'ai changé tout le business, toute la façon dont on faisait ce business dans le monde entier, vraiment changé le truc. La perception mondiale maintenant, c'est que les plus belles bougies du monde, elles sont françaises.
T'as rencontré beaucoup de gens comme toi ?
Ouais. Non, pas beaucoup, mais j'en connais. Les gens que je rencontre, j'ai besoin qu'ils soient un peu comme moi. Les gens que j'aime bien, c'est les gens qui sont prêts à tout perdre. Qui en auront la foutre de ce qu'ils ont. Quand je dis tout perdre, c'est pas que matériel. Perdre leur réputation, perdre leur truc. Ils sont prêts à dire fuck et tout niquer pour être eux-mêmes. Tu vois, ça, j'aime bien ça. J'aime pas les mecs qui... Je connais des mecs qui réussissent. Mais putain, les mecs, c'est pas... C'est des attachés de presse, les mecs. C'est pas des humains, quoi. Il faut leur promo permanente. Ils s'embrouillent avec personne. Ils font super gaffe. J'habitais à New York et c'est comme ça à New York. J'ai détesté New York. Tout le monde se chie dessus socialement. Pour bouffer, tout le monde se chie. Alors que tu peux rien dire. Tu peux pas attaquer les chiens. Tu peux pas parler de la Palestine. Tu peux pas parler de rien. Tu peux pas faire des blagues homophobes, racistes. Tu peux pas être normal. Tu dois tout garder chez toi. Putain, ça fait des ulcères. Ben moi, tu sais quoi, les ulcères, je les ai pas. Je les distribue.
Est-ce que c'est un moteur, l'angoisse, pour toi ?
L'angoisse de quoi ?
La peur de l'échec, la peur de...
Tu parles à quelqu'un qui a cramé 8 boîtes, qui a peur de l'échec. Mais t'es ouf ou quoi ? L'échec, c'est là où t'apprends le plus. Il y a que les débiles qui ont peur de l'échec. L'échec, ça fait partie de la réussite. Si tu sais pas perdre, tu gagneras jamais. Mais j'ai coulé, réussi, je m'en fous, c'est pareil. Quand t'as été clochard, tu sais le pire. Et le pire, c'est pas si pire que ça. Donc ça va, tranquille le chat ou la fourmi rouge, on avance. Non, je dis, j'ai juste une problème, j'ai peur de m'ennuyer, après.
T'es volontiers provocateur, alors là, je pense que c'est une expression que tu vas pas aimer, parce que c'est peut-être un peu un résumé un peu facile, mais en tout cas, je sens chez toi une espèce de jouissance et d'amusement à choquer un peu, à...
Non, c'est une éducation différente, c'est pas pareil. Là, le vernis bourgeois hypocrite, il n'y a pas. Il n'y en a pas, il n'y a jamais été, il n'y a pas une seule couche dessus, il n'y a rien. Donc je le vois aujourd'hui parce que je découvre, en 20 ans, j'ai vu quand même l'autre partie de Paris, 20-25 ans que je vois, j'ai vu une autre façon de voir les choses et j'ai vu comment ils étaient. Mais moi, dans mon éducation, il y a toujours été, c'était assez violent, c'est ouvrier et tout, on dit ce qu'on pense. Et en fait, ça, c'est le seul truc que je n'ai pas appris avec toutes les années. Nos filtres. Et j'adore la baston. Donc, j'aime bien. Je sais qu'il y a des personnes qui, toute leur vie, évitent les conflits. Moi, j'adore le conflit. Il y a des gens qui paniquent. Moi, j'adore le chaos. Et sur le chaos, c'est mon terreau. Après, j'ai jamais essayé dans ma vie à être le plus populaire de la cour d'école. Ça n'a jamais été mon truc. Tu vois, il y avait mes extrêmes, il y avait mes fans. Et puis les autres. Les autres ne m'intéressent pas beaucoup, en fait. Là, j'ai reçu, par exemple, hier sur Instagram, un mec cherchait du travail. J'en reçois beaucoup, j'ai l'impression que c'est par ce médium qu'ils veulent vraiment me toucher. Et le mec, il dit, j'adore ce que vous faites, j'ai envie vraiment de travailler avec vous. Peu importe votre réputation. Qu'est-ce que je réponds à ça? Si le mec, il prend ça en considération, qu'est-ce qu'il va me casser les couilles? Sois fan, vraiment. Garde que le positif, il ne fait pas le mec... Je n'ai pas répondu. Aujourd'hui, c'est que ça. C'est que... On s'intéresse vraiment qu'à ce que les gens pensent de toi, de ton temps de travail. Mais qu'est-ce que ça fout ? Fais ton travail. Moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est mes clients. Et jusqu'à où ? Preuve du contraire, ça va. Si j'avais commencé à écouter les mecs de Paris, ou les mecs de je sais pas où, ou de Toulouse quand j'étais jeune, mais j'aurais jamais fait un quart de ce que je fais. Mais t'imagines ce que c'est la réputation ? C'est un taf à plein de temps. Tu devais gérer ta répute.
T'écoutes personne ?
Même pas ma femme. Personne. Ni mes parents, ni ma femme, ni mes enfants, personne. Mes décisions, je les prends seul. Tu sais pourquoi ? Parce que quand ça part en couille, t'es le seul à assumer. J'aime pas partager le bordel. Quand ça part en couille, je suis seul. Une seule fois, je l'ai écouté. On a craché une boîte qui cartonnait. Et ça a été pas terrible pendant quelques mois. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai dit, les décisions, je les prends seul, je les assume seul. Je suis un grand garçon. Et nique sa mère, la vie, c'est un voyage. Et je veux choisir la direction où je veux aller. Tu vois, j'ai pas envie de la partager. Je travaille pas d'aider ailleurs, je fais tout moi-même. Je dessine mes boutiques, je travaille avec personne. Visuellement, toutes les vieilles petites boutiques, elles ont été détruites en trucs de branchouille. Et moi, je suis un des plus grands pourfendeurs de ce truc-là. Moi, je suis carrément, je parle de déglobalisation esthétique. Je dis, on revient sur nos frontières. Je suis vraiment le Marine Le Pen, voire le Jean-Marie Le Pen de l'esthétique. Je dis, non, on est français, nous, on est français, voilà, nos codes, boum, boum, boum. Voilà, chacun ses trucs parce que la Terre est en train de ressembler à la même chose partout. Moi, c'est vraiment punk. J'ai une réputation dans le métier. Je vais la faire courte. C'est que Ramdan va menacer de sauter de la falaise dans une négociation. Et le problème avec lui, c'est qu'il va le faire. Donc, je suis vraiment un dingue. Parce que je m'en fous des choses matérielles.
T'aimes pas les vacances ?
Si ? J'en ai pas. Là, j'y vais pour la première fois un mois parce que mon docteur m'a dit que je devais y aller. J'étais en situation presque burn-out. Donc, il a dit, il faut vraiment que tu y ailles. Là, tu es au bout physiquement. Il faut que tu y ailles parce que tu as beaucoup travaillé ces 8 dernières années sans arrêt, sans discontinuer tous les jours. C'est même le dimanche. Il a dit, il faut que ton corps se repose. Donc là, j'y vais un peu. Mais je travaille un peu. Je profite de ces vacances pour faire un magazine avec des gens. Donc j'ai des photographes, des journalistes qui viennent à la maison. J'ai loué des baraques un peu partout. Et... En fait, ce n'est pas vraiment des vacances. Mais c'est le genre de truc où je fais un truc marrant. Je fais un magazine sur moi-même.
Ah bon ?
Qui s'appelle WAM. C'est le premier magazine papier, post-Instagram, égocentrique, pareil. J'anticipe la fin d'Instagram. Je reviens, je fais une version vintage. Ouais, non, j'ai interviewé. Et là, je reviens ce matin de Tokyo où j'ai interviewé d'autres potes et j'ai interviewé tous les gens que j'aimais dans le monde. Et j'ai fait un mag qui s'appelle WAM, W-A-M. Et la couve est assez rigolote. Je suis à 3000 mètres d'altitude dans un des hôtels les plus incroyables où il y a eu un James Bond. Et je suis allé là-bas et j'ai fait le Marocain. J'ai adoré l'hôtel, j'ai acheté l'hôtel. Et ça, c'est vraiment un truc, je suis assez fier de mon coup là. C'est un hôtel que je connais depuis 25 ans et il était à vendre. Et je l'ai acheté sur le coup en même temps. Tu verrais, il a en coupe du mag. Ouais, c'est marrant. Mais ouais, c'est assez foutraque ma façon de vivre. Tu sais, je suis à découvert tout le temps. Hein. Je suis quelqu'un qui a... Je pense que je mets de l'argent sur mon compte en banque quand ma banque m'appelle. Je suis ce genre de mec. Enfin, je fais des gros virements, mais... Il m'appelle, dit, ah, il y a un truc, là, on est à moins 18. Ah, merde. Je vous envoie ça tout de suite. Et voilà. Mais je suis pas un mec qui sait gérer tous les jours. Je suis un très mauvais du tous les jours.
La dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit, tiens, si on fait ce podcast ensemble, faudra qu'on parle de la bourgeoisie.
Les bourges, c'est pas une histoire de thunes. C'est des gens qui peuvent parler à leurs parents toute leur vie, à leurs potes toute leur vie, parce que ça ne bouge pas. C'est ça un bourge pour moi. C'est un mec qui naît dans un monde, et les gens avec qui ils ont traîné petit, c'est toujours leurs potes, ils sont dans leur truc, ils ont tous à peu près la même vie. Ils ont la même vie que leurs parents, à peu près. Socialement, je veux dire, et économiquement et tout. Moi, parler à mes potes d'enfance, mais c'est la science-fiction. Je ne peux pas leur dire ma vie, je ne peux pas raconter un quart de ma vie. Je ne peux rien dire à mes parents. J'ai aucun sujet en commun avec mes parents. Je ne peux rien dire à mes frères et sœurs, à mes cousins. Salut, ce matin, j'étais dans un avion, je vais te raconter. J'étais en première classe, Tokyo-Paris, Haneda, le 23h50 que je connais par cœur. Les gens me reconnaissent dans l'avion tellement je le prends tous les mois. Et je suis assis et qui vient s'asseoir à côté de moi ? On est en première, on n'est que moi et elle. Naomi Campbell, complètement folle, l'enfer. Après, elle a fait des scandales à l'avion, elle est tombée au décollage, elle était debout. Mais je raconte ça à ma mère. D'abord, elle dit, c'est quoi la première ? Après, il n'y a que 4 places dans l'avion. Mais quelle histoire ? Combien ça coûte la place ? Et je lui dis le prix, elle devient folle. C'est une année du salaire de mon père. Après, je lui dis qui est Naomi Campbell ? Top modèle. Elle va me dire, en plus, elle est noire. Ouais, comment elle fait ? Je sais pas, j'ai l'impression d'être d'une vieille planète. Je suis pas confortable dans le monde des bourges parce que je comprends rien à leur délire. Mais j'ai aussi plus du tout de place pour parler avec les Kaira avec qui j'ai grandi ou les mecs de la campagne. Dans la campagne, dans le Tarn-et-Garonne, si je raconte un quart de ma vie. Autant je suis plus du tout connecté avec les Arabes bourges. Pour eux, je suis un ovni. Demande à Jamel Debbouze ou des gens comme ça et tu diras, Ramadan Touami, c'est un ovni pour nous. Eux, ils sont encore très... Je vais pas dire communautaire, mais ils sont encore vraiment entre eux. Ils sont toujours dans leur van. Ils sont très... Eux, quand ils vont voir les mecs de cité, ils continuent à parler. Moi, j'ai pas du tout les mêmes passions.
Du coup, ton cercle proche, alors c'est quoi dans ces cas-là ? Comment on fait quand on se retrouve ni dans la bourgeoisie ? En l'occurrence, c'est même plutôt l'aristocratie avec ta femme.
Oui, elle, c'est l'aristocratie, mais elle est entourée quand même de bourges. T'es le caméléon, tu t'adaptes. Mais c'est très, très inconfortable, tout le temps. T'es jamais sur tes deux guiboles, tu vois. Il y a deux, trois potes sur qui je peux m'appuyer, notamment ce gars qui s'appelle Philippe, qui vient, pareil, banlieue, à côté de Grenoble, ouvrier, qui a super réussi. Et lui et moi, quand on se retrouve, on redevient normaux, on va voir des matchs de foot. Et après, on va se faire en 3 étoiles, oh là là. Mais c'est, il n'y a que lui, tu vois, je peux faire ça. Hein, il n'y a que lui qui a les moyens. Tu sais, c'est le mec qui m'offre un vélo sur mesure l'autre jour de course pour qu'on aille faire du vélo cet été. C'est sa façon de dire, viens, on va faire du vélo. Mais il y en a très peu des comme ça.
Est-ce que tu penses que c'est plus dur en France de prendre l'ascenseur social qu'ailleurs ?
Il n'y a pas d'ascenseur social, arrêtez les gars. Il n'y en a pas en France. C'est trop exceptionnel de réussir en France. Un ascenseur, tu ne fais pas d'effort. Tu vois, tu te mets dedans et ça monte tout seul. En France, c'est plutôt un escalier et avec des marches gigantesques. Et il y a plein de strates, tellement il y a de strates dans ce pays. Y a c'est d'une difficulté. En fait, il va et c'est rare. Je ne sais pas comment. En fait, il n'y a même pas de méthode. À l'école, ça trie. Déjà, là, la primaire, tu es avec les mecs de ton TK. Donc, tu n'as pas trop le choix. Déjà, socialement, tu as mis dans la case. Tu es avec ceux-là. Moi, j'étais à la campagne. Et après, collège. Puis en cinquième, c'est ce qu'on appelle le premier tri bougnoul et black. Là, on dégage les noirs et les arabes. On les envoie en CAP, tourneur, fraiseur et tout. Ce qui est assez incroyable. Mon frère, il est un CAP, tourneur, fraiseur. Il est aussi agrégé d'histoire. Il est le professeur au CNRS et il est un des plus grands anthropologues au monde sur un sujet particulier qui est tout ce qui est sorcellerie et mauvaise œil. Il écrit des livres, je sais plus, fait tout. Mais il a commencé avec un CAP, tourneur, fraiseur. Et donc, tu as la cinquième. Après, tu as quatrième, troisième, t'as l'autre grand truc où là, c'est le massacre de tout ce qui est basané. Même si t'es bon, on t'envoie en BEP. Moi, j'ai fini en BEP compta. Et les autres, ils vont dans les trucs classiques. Et après, t'as encore un autre truc, même pour les bourges. Hein. Après, ça devient même compliqué pour les bourges. Alors, si t'as la chance d'arriver à Henri IV, après, alhamdoulilah, hein, tranquille le chat, comment dire. Hein. Après, tu fais ton ENS, mes couilles ou HEC, et tu deviens un des grands débilos qui dirigent ce pays. Et ces mecs-là, j'en ai eu des HEC dans ma boîte. Hein. Ils étaient juste bons à l'école. Un jour, je rencontrais un vieux, il m'a raconté, tu sais, il me dit, j'ai peut-être fait des études, mais quand je jouais aux cartes à l'armée, les mecs qui me mettaient à l'amende, c'était des ouvriers. Il dit, tu vois, ils n'ont juste pas eu de chance, ils ne sont pas nés au bon endroit au bon moment.
Tu as donc d'une certaine façon échappé à un déterminisme social. Est-ce que, pour toi, c'est dû à quoi, ça ?
Ah, ma capacité à voyager. J'ai pas cherché le bonheur en France. Je suis allé le chercher ailleurs. Donc j'ai déménagé 16 fois en 19 ans quand même. Hein. Donc, je suis quelqu'un qui voyage, qui a aucun problème pour voyager. Donc avec les enfants, on a vécu aussi bien à Jaipur qu'à Tanger 2 ans, à New York 2 ans, à Tokyo, partout. Donc les enfants, et moi d'ailleurs, on s'en va. La France, si t'attends quelque chose de ce bled. J'ai pas trop beaux qui cartonnent, qui sont fités pour ici. Pour un mec comme moi, laisse béton, je suis pas fité pour ici.
J'entendais ce matin une vieille interview de Lucini qui citait Cioran, et j'ai beaucoup aimé cette phrase. Il disait « Ce que je sais à 60 ans, je le savais aussi bien à 20, 40 ans d'un superflu travail de vérification. »
Eh bien, j'en reprends pour moi. Ce que je savais à 14 ans, je le sais aujourd'hui. Par contre, il y a un truc qui a changé. Je suis beaucoup plus précis sur ce que j'aime et ce que j'aime pas. Voilà. Plus je vieillis, moins d'efforts. C'est ça qui est bien avec l'âge. C'est qu'on sait vraiment ce qu'on aime et on sait vraiment ce qu'on n'aime pas. Après, ça fait connard, des fois arrogant ou des trucs comme ça, mais voilà. Très peu de gens me connaissent. C'est-à-dire que ma femme, elle connaît une partie de ma vie. Je vis avec elle, elle connaît pas l'autre. Elle connaît la partie que je lui montre. Mais mes potes encore moins. Et Vic, c'est peut-être celle qui en connaît le plus. Et je connais 30% de la sienne. Je découvre des choses, ça m'énerve des fois. Mais pas plus que ça. C'est-à-dire que pour avancer dans la vie, il ne faut pas tout donner. Tu vois.
Vous avez trois enfants avec Victoire. Comment est-ce que tu aimerais qu'ils évoluent ?
Mes enfants, tant qu'ils ne font pas une école de commerce, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie. Ils peuvent être PD, travelo, faire ce qu'ils veulent. Les écoles de commerce, c'est l'école à rien apprendre et à faire croire que tu sais tout. Tu vois. Hier, j'étais en train de discuter avec une fille à Tokyo qui travaille, qui était la meuf d'un pote à moi. Et elle travaille dans la pub. Et elle me dit, moi, je fais de la stratégie. Elle avait 28 ans ou 27 ans. Stratégie de quoi? Je montre aux boîtes comment faire. Je fais, mais c'est quoi ton expérience? T'as monté une boîte? T'as fait ça? Elle était chez McCann. Je fais, t'as monté une boîte comme McCann et t'as une expérience à partager. Elle dit, non, mais on a analysé. Votre délire, c'est juste plus. C'est jamais mieux. Il faut apprendre, tu vois. Il faut apprendre. J'étais nul à l'école et j'ai rattrapé avec le temps, tu vois. Il faut que passionner de nouveaux trucs. Et la vie, tu vois, c'est ton cerveau est une éponge. Il faut la remplir. Là. Et je veux que mes enfants, ils apprennent ça. Toute la vie, tu dois apprendre, te cultiver. Tu peux devenir un philosophe à 72 piges. Tu sais ce que j'aime le plus? Mais ça, c'est vraiment le truc que j'aime. C'est quand je tombe sur des vieux de 85 ans qui créent encore, qui fabriquent des choses. La retraite, c'est quoi ce débat de la retraite? Mais pas de retraite, c'est encore mieux. Quand tu tombes sur un mec de 85 ans qui dit « Bon, là, je suis en train artiste un peu rigolo ou n'importe quoi », il te dit « Ah, dans les 5 prochaines années, je suis sur ce projet, ça va être ouf !» Putain, mais il a les yeux pétillants, le mec a l'impression qu'il a 12 ans. C'est ça qui me fait avancer, c'est ces mecs-là.
Comment tu veux vieillir?
Je vieillis tous les jours, c'est un truc qui m'arrive, j'espère que ça arrive à tout le monde. mais rester le plus possible comme ça, le plus fou, le plus... Je pense que l'année prochaine, je passe à un autre projet et j'aurai mis assez d'argent de côté pour être encore plus punk, passer au niveau au-dessus, parce qu'il y a encore de la marge. Bully, c'est le projet le plus sérieux que j'ai fait, donc après, on va redevenir con, mais on va devenir vraiment très con, parce qu'il y a des idées. Hein. Quand j'ai acheté l'hôtel et tout, il y a des idées à la... Ouais, non, ça... Là, j'étais trop sérieux. J'ai l'impression d'avoir travaillé. Tu sais, c'est... Comme si j'avais bossé tous mes devoirs. Et ça, c'est pas un truc que je sais faire. C'est pas naturel. Donc là, c'est bon, j'ai fait le taf. On va passer à autre chose. Là, je m'ennuie parce que j'ai trop travaillé.
Quel est ton rapport à l'ivresse ?
Alors, contrôle. Tu sais, moi, j'ai un problème avec ça. Je bois pas, je fume pas. Alors, sur ce coup-là, j'ai perdu énormément d'amis. En fait, il y a le côté social de la drogue et de l'alcool et tout ça. C'est un truc hyper social. C'est très bizarre, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc social. C'est-à-dire que tu prends de la coke avec un mec, t'es son pote. Et un jour, j'avais un de mes potes les plus proches qui s'appelle Dan McMillan. On était très, très proches. On traînait tout le temps. Et puis un jour, il m'a dit, j'ai un problème avec toi. Tu prends rien. Et j'ai jamais fait, il m'a dit, je fais pas confiance aux gens qui prennent rien. Même un antidépresseur, j'ai jamais pris, tu vois. Donc, même pas un quart de l'exo, même pas, je sais pas ce que c'est, même Xanax, tous ces trucs-là. Je le vois chez les autres, ça, d'ailleurs, je les insulte quand je le vois. Et moi, je bois de l'eau plate. Je bois même pas de bulles, je bois même pas de coca. J'ai découvert le café il y a un an. Tu sais, le café, moi, c'est vraiment, ça fait un effet dope sur moi. Alors que les gens, ça fait rien, parce qu'ils ont oublié ce que ça faisait. Même quand j'étais à la rue Clochard dans le métro, j'ai rien pris. Et tu veux savoir? C'est un grand regret. Je suis trop contrôle de moi-même pour perdre le contrôle. Je crois que sur ce côté-là, mes parents m'ont tellement bien éduqué. Ils étaient contre-prennent tous ces trucs-là. Donc...
Comment est-ce que tu aimerais mourir ?
Pas con comme question. J'aimerais pas mourir en bonne santé. Ça, c'est très con. Mourir riche en bonne santé, c'est le truc le plus con. Parce que, en fait, tu meurs avec beaucoup de potentiel encore. Tu peux faire encore beaucoup de conneries. Alors, pour le coup, là, c'est le côté très conservateur qu'il y a chez moi. Genre entouré de mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, genre vieux à donner des trucs. Je travaille sur un projet en ce moment qui est assez rigolo, de maison, je ne peux pas trop en parler, mais sur une maison de vieillesse, pour créatifs uniquement, et qui est à moitié école. On travaille avec ça, et c'est que des anciens créatifs, des gens qui sont dans le cinéma, dans l'art, l'architecture, le design, et même la bouffe et tout ça. Et en fait, on serait dans une maison de retraite et qui donnerait des cours à des jeunes, comme ça on est connecté avec les jeunes pour vivre encore plus heureux. J'ai travaillé sur ce projet depuis un moment et puis on va peut-être le faire, je sais pas.
Tu dis j'ai créé mon monde.
Ouais, ouais. Si aujourd'hui je vois mes rêves à 14 ans, 15 ans, 16 ans, même jusqu'à 18 ans, et je vois ce que j'ai créé comme monde, j'y crois. Mais t'imagines, le petit gamin de 16 ans que j'étais, il n'y croit pas. Mais même pas une seconde, même pas un tiers, même pas un millième. Ça, c'est la science-fiction que je vis. Des matins, je me réveille, j'ai le sourire devant le miroir. Genre, je vois mes enfants, tu vois, je vois leurs trucs. Mec, on est où, là ? Je me pose vraiment la question, des fois. Qu'est-ce que je... Tu vois, des fois, je me prends d'être super snob sur un truc très con et je me dis, mais tu es où, là ? Comment t'as le droit d'être snob comme ça ?
Moi, ce que je ressens de toi et que je trouve tout à fait sympathique, c'est que tu boutes pas ton plaisir.
Je suis en plein kiff total aujourd'hui. C'était pas scénarisé, le scénario est assez ouf quand même. Voilà. Mais c'est un scénario que j'écris tous les jours, qu'il y a pas de planification. Je vois des gens planifier. Hein. Je vois des gens qui, dans leurs entreprises, essaient d'être au poste au-dessus. Ils font plein de petites manigances et tout. Je le vois dans ma boîte maintenant que j'ai beaucoup d'employés. Je vois des gens dans la boîte qui. Et dès que je sens un mec manigancer pour être au poste au-dessus, je le sac. Je suis l'anti-mec. J'aime pas les bons élèves. J'étais nul à l'école. J'ai une passion pour les plus nuls. Pour les arrogants, les provocateurs, les nains. Enfin, les mecs qu'on n'aime pas. J'aime bien les outcasts, les moutons noirs.
C'était un entretien mené par Laurence Velli et réalisé par Sidney Clazen pour Les Déviations en partenariat avec Gradia. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes. Vous pouvez aussi noter ce podcast. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.